Je ne vais pas me présenter, hein. Et je crois que nous allons passer directement au sujet avec une petite nuance par rapport au titre précédemment indiqué, que j'ai corrigé sur les dossiers de texte. Je vais vous entretenir du château intérieur des 3e aux 5e demeures, alors que sur l'affiche initiale, c'était des 4e aux 5e, mais on ne comprend pas bien les 4e demeures si on n'a pas dit quelques mots des demeures précédentes. Les conférences de ce matin nous aident vraiment, je pense, à introduire ce propos. Je rappelle simplement quelques points qui sont vraiment importants. Nous sommes entrés déjà dans le château intérieur, puisque nous avons franchi la porte d'entrée. Nous avons passé les premières et les secondes demeures. Et il nous a été dit ce matin que cette progression de demeure en demeure était une manière de vivre, d'activer le don de Dieu en nous, c'est-à-dire la grâce d'adoption filiale. Ainsi, la vie spirituelle, selon Thérèse de Jésus, se présente, et cela aussi nous a été dit ce matin, comme une intériorisation progressive. Passer de l'extérieur de nous-mêmes, en quelque sorte, jusqu'à la partie la plus profonde, là où demeure le Seigneur. Et on peut jouer sur les mots de façon profitable, puisque vous connaissez les châteaux du Moyen-Âge, du moins ceux qui sont en Europe. Il y a plusieurs enceintes, plusieurs demeures, et au cœur du château, il y a une tour que l'on appelle le donjon, et c'est là où précisément réside le Seigneur. Donc vous voyez, l'image du château convient assez bien pour insister sur la dimension de l'inhabitation divine, c'est-à-dire le fait que par la grâce, du point de vue de l'adoption filiale, par la grâce, le Seigneur habite au-dedans de nous. Et il s'agit de rejoindre en quelque sorte celui, l'hôte intérieur, qui habite au-dedans de nous. Et c'est ça la vie spirituelle. Il ne s'agit pas de rechercher le Seigneur ailleurs, mais au-dedans de nous. Bien sûr, il est vrai qu'il y a le grand livre de la nature qui nous parle du Créateur, ce magnifique livre de la nature. Mais pour la rencontre avec le Seigneur, la rencontre personnelle, alors nous le trouvons au-dedans de nous. Et voilà pourquoi nous pouvons considérer que la vie spirituelle, en son intégralité, est ce pèlerinage intérieur. Cette intériorisation progressive. Je veux préciser maintenant quelque chose de très important pour la compréhension de cette présentation. Cela a été dit aussi, mais un peu en passant. C'est que selon Thérèse, il y a deux phases principales dans ce pèlerinage intérieur, dans cette vie spirituelle. La première phase recouvre les 3 premières demeures. Et c'est dans cette première phase, on peut dire que c'est l'homme secondé par la grâce de Dieu, aidé par la grâce de Dieu, qui a l'initiative dans sa vie spirituelle. Donc les 3 premières demeures. À partir des 4e demeures, où commence la vie mystique, redisons que la vie mystique ne s'identifie pas aux grâces et faveurs extraordinaires, mais c'est la vie menée sous l'action prépondérante du Seigneur agissant par ses dons, les dons du Saint-Esprit. Donc les 4e demeures, c'est le commencement de la vie mystique. Et donc des 4e aux 7e demeures, c'est la seconde phase de la vie spirituelle, c'est la vie mystique, donc qui correspond à cette emprise progressive de l'Esprit-Saint dans la vie du chrétien. Pour prendre une image simple à comprendre, ou plutôt une expression simple à comprendre, la première phase, c'est moi avec la grâce de Dieu. La seconde phase, c'est la grâce de Dieu et moi avec elle. Et on retrouve plus ou moins des expressions pauliniennes dans ce que je viens de dire. Donc ça, c'est très très important. Et c'est très important parce que c'est réel et que ça éclaire notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle. Et voilà pourquoi je vous propose de faire ce pèlerinage des 3e aux 5e demeures et de commencer tout simplement dans un premier point en parlant de la vie honnête est bien réglée des troisièmes demeures. C'est une citation de Thérèse. La vie honnête est bien réglée des troisièmes demeures. Et ici, je ne prends pas directement le château de l'âme, mais ce bref commentaire du quelques versets du Cantique des Cantiques que l'on a édité sous le titre « Les pensées sur l'amour de Dieu ». Un petit texte thérésien qui est d'une très grande importance et qui est très très peu commenté, malheureusement. Il faut vraiment lire les pensées sur l'amour de Dieu. Il y a une richesse énorme dans ces quelques pages. Donc, ces pensées ont été écrites avant le livre des demeures, et déjà, elles parlent de ces deux étapes principales du cheminement spirituel. Donc, je redis, la première étape correspond à la période qui précède l'entrée dans la vie mystique, c'est le chapitre 2 des pensées sur l'amour de Dieu, et l'autre parle de la vie mystique qui est caractérisée dans les pensées sur l'amour de Dieu par les oraisons de quiétude et d'union, chapitre 3 et suivant. Donc, selon Thérèse, les personnes de la première phase s'efforce donc, je reprends l'expression, de mener une vie honnête et bien réglée. Elle les décrit de façon assez détaillée. Ces personnes, c'est-à-dire ces personnes, ces chrétiens, on peut dire chrétiens convaincus, se réservent, je la cite, un moment pour l'oraison et sont vraiment soucieuses et sincèrement soucieuses de ne pas offenser le Seigneur. Toutefois, parce qu'il y a un toutefois et même plusieurs toutefois, toutefois, leur manque de détermination, et ici on retrouve la question de la détermination, leur manque de détermination face aux occasions de péché les voue à mollir, comme l'écrit Thérèse, sur le chemin de la fidélité à l'Évangile. Et nous voyons donc, Thérèse insiste souvent, et ici aussi on y a insisté, insiste souvent sur le courage, sur la détermination absolument indispensable à tout progrès spirituel. Mais nous avons compris aussi que cette détermination n'était pas une détermination à la manière pélagienne, mais c'est la réponse libre de l'homme nécessaire à tout progrès spirituel. Pour Thérèse, en effet, l'amour véritable ne consiste pas à rechercher ici ou là des consolations dans la vie spirituelle, mais à cultiver, je la cite, ici, cette fois dans les quatrièmes demeures, à cultiver la plus forte détermination de désirer toujours contenter Dieu. Nous passons maintenant au château de l'âme, où Thérèse aborde de nouveau, mais avec encore plus de détails, cette première étape qu'elle appelle maintenant les troisièmes demeures. Donc c'est effectivement un vocabulaire qui se trouve dans le château de l'âme, les demeures. Et ces demeures constituent un palier important dans la marche vers Dieu, malgré certaines insuffisances, certains manques que nous allons découvrir maintenant. Thérèse utilise le premier verset du psaume 111 en tête du premier chapitre qui traite de ces demeures. Et ce verset 1 peut résumer la disposition, l'attitude principale de celui qui est parvenu en ces demeures. Bienheureux l'homme qui craint le Seigneur. Bienheureux l'homme qui craint le Seigneur. Ce passage du psaume reflète en effet le désir tout à fait sincère du chrétien de placer l'ensemble de son existence sous le regard de Dieu, organisant celle-ci matériellement et spirituellement dans ce but, dans le but de plaire à Dieu. On peut dire que, pour la madre, les troisièmes demeures, c'est la domination tranquille d'un comportement raisonnable qui touche tant la prière que les autres aspects de la vie. Mais écoutons-la plutôt. Vivement désireuse de ne pas offenser sa majesté, donc il s'agit du Seigneur, ces âmes se gardent même des péchés véniels et sont amies de sa majesté. Elles réservent des heures au recueillement, emploient bien leur temps, s'appliquent aux œuvres de charité envers le prochain. Un ordre harmonieux règne dans leur langage, leurs vêtements et dans le gouvernement de leur maison, si elles en ont. Et Thérèse en conclut, la faveur que le Seigneur leur a faite de passer outre aux premières difficultés, hein, les premières demeures, n'est pas mince, mais très grande. La faveur que le Seigneur leur a faite de passer outre aux premières difficultés n'est pas mince, mais très grande. Alors, oui, c'est ça, ces premières difficultés sont une allusion aux âpres combats, on l'a vu ce matin, qui accompagnent l'entrée, une entrée réelle dans la vie spirituelle. En somme, Thérèse apprécie l'état où ces chrétiens sont parvenus. Et elle semble même ne pas ménager son admiration. Elle écrit, dans le chapitre 1er des troisièmes demeures, c'est certes un état souhaitable, une très belle disposition pour obtenir de lui toute grâce. Elle complimente tellement ces personnes qu'on a plus ou moins le pressentiment que ça va se gâter un petit peu. Et c'est ce qui arrive. Les compliments sont sincères, certes, mais ils vont laisser bientôt la place à une critique qui se fait de plus en plus précise et même, disons-le, incisive. Sur quoi portent finalement ces critiques? Elles portent sur la qualité du don de soi au Seigneur. Donc, nous avons vu le premier point, une vie honnête et bien réglée, mais, va nous dire Thérèse, c'est le deuxième point de ces demeures, il faut encore quelque chose de plus. Il faut encore quelque chose de plus que ce bel arrangement de vie. Et pour fonder sa critique, Thérèse se réfère à l'épisode évangélique du jeune homme riche, donc Matthieu 19, 16, 22, épisode que tout le monde connaît bien. Et elle va commenter le refus de ce jeune homme de répondre à l'appel du Christ en faisant remarquer que le simple désir de perfection ne suffit pas. Encore faut-il, et là je la cite dans le chapitre 1er des troisièmes demeures, encore faut-il quelque chose de plus pour que le Seigneur possède complètement l'âme. Encore faut-il quelque chose de plus pour que le Seigneur possède complètement l'âme. Eh bien, ce quelque chose qui faisait défaut à l'interlocuteur de Jésus est également plus ou moins absent chez les habitants de ces troisièmes demeures. Mais qu'est-ce que ce quelque chose? Eh bien, ce quelque chose n'est rien d'autre que la totale désappropriation de soi pour suivre le Christ. Hein, c'est la sequela Christi dont il est question ici. Et en effet, Thérèse va expliquer que le point faible de ces chrétiens, c'est de chercher à accommoder indéfiniment Dieu et l'esprit du monde par une sorte d'habile dosage qui, de l'extérieur d'ailleurs, peut sembler parfaitement honnête et chrétien, précisément. Et déjà, on l'a vu, on a commencé à le voir, dans les pensées sur l'amour de Dieu, Thérèse avait stigmatisé chez ces chrétiens c'est nous, hein, ces chrétiens que nous avons tous tendance à être, le manque d'empressement au service du Seigneur. Si d'un côté, elle reconnaissait que, en raison de leur fidélité, ces chrétiens pouvaient rapprocher des âmes du Seigneur, de l'autre, elle signalait qu'ils agissaient sans s'exposer au danger dans les pensées. Sans s'exposer au danger, cela veut dire sans épouser la sainte folie de l'apôtre Pierre qui l'a fait se jeter à la mer pour l'amour du Christ. Dans les pensées, elle constate que la foi de ces chrétiens n'a pas beaucoup d'action sur leurs décisions. Et voilà le reproche. N'a pas beaucoup d'action sur leurs décisions. Or, et c'est là le point délicat, en n'optant pas fondamentalement pour l'amour de Dieu, le risque est réel de se laisser rattraper par le parti du monde, comme elle l'écrit toujours dans les Pensées, surtout lorsque l'honneur du Seigneur est gravement en jeu. Je crois que nous sommes tous confrontés à ce choix radical, surtout dans nos sociétés d'aujourd'hui. Le risque, en n'optant pas fondamentalement pour Dieu, le risque est réel de se laisser rattraper par le parti du monde. Mais si on essaie, de façon finalement assez utopique, assez naïve, de ménager Dieu et le parti du monde, alors on va finir par perdre sur les deux tableaux. Celui de la foi et celui du monde, parce que, note Thérèse, le monde n'exalte jamais que pour abaisser si ceux qui l'exaltent sont enfants de Dieu. On peut apprécier et goûter en quelque sorte ce diagnostic sur le monde, sur nos sociétés. Le monde n'exalte jamais que pour abaisser si ceux qui l'exaltent sont enfants de Dieu. C'est dans le chapitre 2 des Pensées sur l'amour de Dieu. De fait, dans cette situation d'indécision foncière, lorsque se présenteront des choix difficiles à faire au nom de l'Évangile, la crainte de l'opinion des hommes finira presque toujours par l'emporter. La raison et la prudence mondaines neutraliseront le point de vue de la foi surnaturelle. Et Thérèse, évidemment, ne peut supporter cela. Et c'est pourquoi elle ne cesse de s'élever contre les méfaits spirituels d'une prudence trop exclusivement raisonnable. Tandis que selon elle, et c'est ce qu'elle écrit, rien n'est impossible à celui qui aime. Dans les Pensées sur l'amour de Dieu, chapitre 3. L'attachement à soi plutôt qu'au Christ entraîne un deuxième défaut qui n'échappe pas à la fine psychologue qu'est Thérèse, et il est assez typique, quoique pas exclusif de ses demeures, c'est celui d'un certain contentement de soi. Et cela a été dit ce matin, un certain contentement de ce que l'on est et de ce que l'on fait. Alors poursuivons encore cette analyse qu'on pourrait qualifier de décapante de la part de Thérèse dans ce troisième point, et c'est une citation de Thérèse, « Ces personnes aiment beaucoup leur vie mise au service du Seigneur. » Donc Thérèse épingle ce défaut finalement fondamental. Ces chrétiens aiment beaucoup leur vie mise au service du Seigneur. C'est une façon, alors elle le dit cela dans le chapitre 2 des troisièmes demeures, nous sommes dans le château ici, c'est une façon plutôt piquante, reconnaissons-le, de dénoncer une certaine installation dans un statu quo social et chrétien respectable, et peut-être même respecté des autres citoyens. Mais ce statu quo social, ce bon statu quo social et chrétien, on entend en garder la maîtrise. Donc la transposition est aisée. Hein. Nous autres, à savoir les laïcs, les clercs, Thérèse passe des savons de temps en temps aux clercs. Donc les laïcs, les clercs, les religieux, n'avons-nous pas tendance à aimer autant notre bonne organisation de vie chrétienne que celui qui en est la source et le modèle, voire à la préférer. Le piège est là. Il consiste donc à tirer de cette sorte de « perfection » entre double guillemets, intérieure et extérieure, à laquelle on pense être parvenu et pour laquelle, il est vrai, on n'a pas démérité, eh bien de tirer de cette perfection une secrète satisfaction de soi jointe à un esprit de propriété et de suffisance. Et cette attitude que nous connaissons tous par expérience trahit la tendance profonde que nous avons à devenir ce qu'on pourrait appeler les gérants principaux de notre vie spirituelle. Alors que la seule véritable manière de progresser spirituellement consiste au contraire à se remettre entièrement entre les mains de Dieu et à se laisser emmener au large par l'Esprit Saint. Et pour nous aider à prendre conscience de cela, Thérèse ajoute une touche assez ironique au tableau. Elle écrit dans le chapitre 2 des troisièmes demeures, « Ne craignez pas que ces personnes, ces âmes, se tuent. Elles sont en possession de leur raison. L'amour ne les fait pas encore déraisonner. No está aún el amor para sacar de razón. Mais je voudrais qu'elle nous incite notre raison à ne pas nous contenter toujours de cette manière de servir Dieu à pas traînant, à un paso paso. Car nous n'arriverions jamais au bout du chemin. » L'allusion à la déraison fait penser à la première épître aux Corinthiens, dans laquelle Paul oppose la folie de la croix à la sagesse du monde. C'est le chapitre 3 de cette épître. Et Paul y invite les chrétiens à devenir fous à cause du Christ. Chapitre 4, verset 10. Et Thérèse insiste dans cette ligne. Elle écrit « Dépassez vos œuvres mesquines, vuestras obligas. » Car en tant que chrétien, vous devez tout cela et beaucoup plus. Troisième demeure, chapitre 1. Pour l'ensemble des baptisés, le vrai progrès spirituel consiste donc, et cela, ça nous touche tous, à passer d'une sagesse purement humaine à une sagesse inspirée par l'Esprit Saint. En effet, qui désire s'engager sur le chemin de la sainteté doit nécessairement entrer dans une logique, entre guillemets, mystérieuse, qui nous dépasse. C'est celle de la sagesse divine. Et c'est un don fondamental de soi au Seigneur qui permet ce passage, qui permet d'entrer dans une sagesse divine. Et ce, quel que soit l'état de vie. Ici, je fais une petite parenthèse, mais qui a son poids pastoral. C'est que souvent, chez les catholiques, quand on dit qu'il faut donner sa vie au Christ, les bons catholiques répondent « Mais moi, je ne veux pas rentrer dans les ordres. » Et il faut rendre hommage aux protestants confessants, parce que eux, ils ont compris que suivre le Christ, justement, ça découle du baptême. Et donc, dans les conventions, les assemblées, etc., la grande interpellation, c'est « Est-ce que tu veux donner ta vie à Christ ?» Ben oui, c'est baptismal, ça. Donc, il y a la consécration baptismale et la vie consacrée. Alors oui, la vie consacrée, c'est une manière particulière, un appel particulier pour donner sa vie au Christ. Mais de façon radicale, c'est-à-dire au niveau du baptême, tout le monde est voué à donner sa vie au Christ, quel que soit l'état de vie. Et Thérèse nous aide justement à comprendre cette logique, cette dynamique du baptême. Et précisément, cet aspect du don de soi est essentiel dans l'enseignement thérésien. C'est le quatrième point que j'aborde maintenant, le don de soi. La nécessité d'un don complet de soi-même est particulièrement mise en relief dans la vie et le chemin de la perfection. Une telle démarche, libre, par excellence, est la condition fondamentale pour attirer et accueillir une plus grande effusion de la grâce divine, que Thérèse appelle, avec les théologiens, c'est pas elle qui a inventé l'expression, le secours particulier de la grâce. Et dans la première phase de la vie spirituelle, on parle du secours général de la grâce. Et dans la seconde phase de la vie spirituelle, donc des quatrièmes demeures et la suite, le secours particulier. C'est-à-dire cette étape, ou ces étapes, comme vous voulez, où la grâce du Seigneur nous prend vraiment en main, si on peut dire. Et il va y avoir des conséquences pratiques. La grâce, ce n'est pas quelque chose d'éthéré entre le ciel et la terre. Elle nous saisit, comme Paul qui a été saisi. Eh bien, nous, notre vocation de chrétien, de baptisé, nous appelle à être saisis par la grâce de Dieu, réellement. Donc, ce secours particulier, qui correspond à la seconde phase, et correspond à l'entrée dans la vie mystique, qui n'est, je le répète encore une fois, qui n'est rien d'autre que la vie chrétienne conduite sous l'influence prépondérante de l'Esprit-Saint. Alors, entrer dans la vie mystique, ce n'est pas non plus quelque chose que l'on peut acquérir à la force du poignet. C'est une disposition. C'est une disposition. Ce don de soi est une disposition. C'est une permission libre, en quelque sorte, que l'on donne à Dieu pour qu'il puisse faire ce qu'il veut dans notre vie. On n'acquiert pas la vie mystique, on la reçoit, on s'y dispose. Mais précisément, ce que nous dit Thérèse, c'est que le don de soi, quand on ouvre sa vie à Dieu, son cœur à Dieu, Dieu s'y précipite. Hein? Dieu, la grâce, a horreur du vide. Dieu a horreur du vide, comme on dit en physique. Donc, la moindre parcelle de liberté, la moindre parcelle de terrain qu'on met à sa disposition, il s'y précipite. Parce que le Seigneur est le bien diffusif de lui-même, comme le dit la théologie. Et donc, il n'a qu'un désir, c'est de se donner pleinement à la créature. Alors, si la créature lui laisse la place, il s'y précipite. Mais c'est toujours une œuvre de la gratuité de sa miséricorde. En même temps, nous parlons d'un don de soi au Seigneur, mais en même temps qu'on désirerait éventuellement se donner au Seigneur, et même on désire vraiment se donner au Seigneur, mais ce désir n'empêche pas que nous expérimentions en même temps nos faiblesses, nos insuffisances, notre pauvreté. Et on peut être un peu craintif et se dire « ça va bloquer l'affaire ». Non, non. Parce que c'est le Seigneur qui sauve de toute façon. Et il guérit ceux qui se reconnaissent malades, nous-mêmes. Donc face à l'appel du Seigneur à avancer au large, duc in altum, avance au large, eh bien l'humble reconnaissance de nos faiblesses, de nos insuffisances, et leur remise confiante entre les mains de la miséricorde vont constituer, pour ainsi dire, le terreau de notre offrande. C'est ça le paradoxe du salut, c'est que qu'est-ce que l'on offre à Dieu ? Notre misère. Mais notre misère offerte devient le lieu où le Seigneur intervient. Donc Thérèse va développer les raisons qui rendent ce don de soi nécessaire à la croissance spirituelle. Elle explique dans Le chemin de la perfection, au chapitre 28, « Comme le Seigneur ne veut pas violenter notre volonté, il prend ce que nous lui donnons. Mais il ne se donne entièrement à nous que lorsque nous nous donnons entièrement à lui. » Fin de la citation. Cela veut dire que le Seigneur ne fait pas un marchandage, des comptes d'apothicaire, il prend une balance, « je te donne autant que tu me donnes, et puis pas plus », c'est pas du tout ça. C'est parce que le Seigneur est précisément infiniment respectueux de notre liberté. Et c'est là que la liberté est au centre du débat. Puisqu'il est infiniment respectueux de notre liberté, il ne dispense ses grâces qu'à ceux qui s'y disposent. Or, c'est un fait, constate Thérèse, toujours réaliste. Nous n'arrivons pas à tout donner à la fois. Et elle constate que nous biaisons, nous n'arrêtons pas de biaiser avec le Seigneur. Elle écrit « Nous n'offrons à Dieu que le revenu et les fruits, gardant pour nous la racine et la propriété. » Dans l'autobiographie, chapitre 11. Et c'est pourquoi, conclut Thérèse, « Il ne nous donne pas ce trésor tout entier. » Ce trésor, c'est celui de la contemplation surnaturelle et des grands dons de Dieu. La conséquence pratique, c'est que l'offrande de nous-mêmes devra être souvent renouvelée afin de tendre à une radicalité effective et donc progressive. Et à ce sujet, je vous invite à lire ou relire le chapitre de « Je veux voir Dieu » qui est précisément intitulé « Le don de soi ». Et dans ce chapitre de « Je veux voir Dieu », le père Marie-Eugène dit qu'il y a trois caractéristiques du don de soi. Il doit être radical, il doit être fréquemment renouvelé. et il doit être indéterminé dans le sens où nous ne nous donnons pas pour nos projets, mais pour le projet de Dieu. Cette nouvelle mise à disposition du Seigneur permet d'entrer dans une docilité de plus en plus grande à l'Esprit Saint, que ce soit dans la prière ou dans les activités, dans la mission. Même si Thérèse n'utilise pas l'expression que l'on rencontre dans la tradition spirituelle, on peut présenter cette étape comme une seconde conversion. Cette seconde conversion, ou ce second appel, comme le dit le père René Voyaume, le fondateur des petits frères de l'Évangile, les petits frères de Jésus, cette seconde conversion, ce second appel à l'intérieur d'une vie chrétienne réelle, eh bien, peuvent être perçus après bien des années de fidélité tout à fait authentique au Seigneur. Mais redisons-le, il n'est pas question ici d'une décision prise à la force du poignet, mais d'une réponse à l'invitation de la grâce qui murmure à notre cœur, qui murmure à notre vie, avance au large. Il ne s'agit pas ici, comme dans toute la vie spirituelle, de l'homme qui veut ou qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, comme l'écrit Paul dans le chapitre 9 des Romains, verset 16. Dieu fait miséricorde, mais encore faut-il répondre à la miséricorde, la liberté toujours. Eh bien, précisément, les quatrièmes demeures décrivent ce passage. Passage nécessaire à toute croissance spirituelle. Passage qui nous touche tous. Cinquième point, les quatrièmes demeures, une ouverture nouvelle à la volonté de Dieu. Au quatrième demeure, donc, sous l'influence prépondérante de la grâce de Dieu, la prière va s'épanouir en contemplation, et c'est l'oraison de quiétude, et l'action va être entreprise également, toute forme d'action, va être entreprise également dans une docilité plus grande à l'Esprit Saint. La vie chrétienne, qui auparavant reposait principalement sur l'initiative humaine soutenue, secondée par la grâce, j'ai parlé de secours général, dépend maintenant en premier lieu de l'action de Dieu qui en devient l'agent principal. Dans les trois chapitres qui décrivent ces quatrièmes demeures, un très court extrait du psaume 119 revient à plusieurs reprises. « Cum dilatasti cor meum »« Car tu as dilaté mon cœur » Verset 32. Par ce verset, Thérèse désire faire percevoir, faire comprendre que l'oraison de quiétude, donc première forme d'oraison surnaturelle, de contemplation, va élargir la capacité de l'âme à recevoir le divin. Et en élargissant cette capacité de l'âme à recevoir le don de Dieu, eh bien, elle lui ouvre en même temps des horizons toujours nouveaux. Il y a eu vraiment une dilatation qui touche la vie chrétienne en général sous tous ses aspects. Et Thérèse explique que, effectivement, dans cette oraison, c'est une petite étincelle, una centellica, du véritable amour de Dieu que le Seigneur commence à allumer dans l'âme. Cette dilatation, donc, va se manifester tant dans la vie de prière que dans l'activité du chrétien, que dans la vie morale, que dans le service de Dieu et du prochain. Cela tient au fait que dans l'oraison de quiétude, ou si on peut s'exprimer ainsi, le fond de l'oraison de quiétude, eh bien, c'est un oui à Dieu. Thérèse écrit que dans cette oraison, tout est oui au Seigneur, en raison de son action qui comble le fond de l'âme. Tout est oui, elle l'écrit cela au chapitre 14 de l'autobiographie, paragraphe 5. La petite étincelle que la grâce du Seigneur commence à allumer et comme le gage du grand incendie d'amour qui va embraser l'âme quand elle sera parvenue au sommet de l'union. Vous savez qu'avec une petite étincelle, on peut allumer un immense incendie. Encore faut-il qu'il y ait l'étincelle. Mais justement, là, elle y est. Elle est donnée. Cette petite étincelle contient les prémices de la fécondité apostolique et déjà présente et future de l'âme. Thérèse écrit que cette étincelle est le signe que cette âme, je la cite, a déjà été choisie pour de grandes choses. Autobiographie, chapitre 15. C'est pourquoi, et c'est très important d'entendre cela, elle conseille aux personnes qui ont reçu la grâce de la contemplation, je la cite, de veiller à ne point cacher leurs talents, puisqu'il semble que Dieu veuille les choisir pour en faire progresser beaucoup d'autres, en particulier en des temps comme ceux-ci, où Dieu a besoin d'amis forts pour sustenter les faibles. Je reprends la citation parce qu'elle est capitale. Donc, elle nous invite à veiller à ne point cacher leur talent, notre talent, puisqu'il semble que Dieu veuille les choisir pour en faire progresser beaucoup d'autres, en particulier en des temps comme ceux-ci, où Dieu a besoin d'amis forts pour sustenter, pour nourrir les faibles. On le voit, la recherche de l'union à Dieu par le chemin de l'oraison n'est pas uniquement une question de perfection personnelle. Une fécondité ecclésiale y est attachée. Et ceci apparaît avec force au cinquième demeure. Et c'est la deuxième partie de notre exposé, les cinquièmes demeures, une extraordinaire dilatation de l'esprit apostolique. Les cinquièmes demeures, une extraordinaire dilatation de l'esprit apostolique. Que se passe-t-il aux cinquièmes demeures? Eh bien, on l'a vu, il se passe, et c'est le premier point, une métamorphose spirituelle, une véritable métamorphose spirituelle. En ces demeures, se produit cette métamorphose qui est source d'une extraordinaire dilatation, élargissement du zèle apostolique. Thérèse va expliquer au cours des chapitres des cinquièmes demeures que jusqu'à présent, l'âme avait commencé à vivre et grandir avec le secours général de la grâce, on l'a vu, puis elle s'était affirmée et avait été introduite dans la vie mystique par le secours particulier, donc les quatrièmes demeures, et là, tel le ver à soie, elle avait commencé à édifier le cocon, sa maison, donc, où elle devait mourir. Or, précise Thérèse, cette maison, c'est le Christ. Donc l'image du ver à soie qui devient papillon exprime l'idée d'une mort à soi-même pour revivre d'une façon nouvelle dans le Christ. Illustration du chapitre 3 des Colossiens, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Le ver à soie se mue en papillon, c'est l'union de volonté, effet d'une entrevue avec Dieu, d'où l'âme sort comme scellée de son sceau. Voyez tout le chapitre 2 des cinquièmes demeures. Ici, nous allons nous intéresser particulièrement à des conséquences de cette grâce d'union, du point de vue de l'apostolat. Thérèse va nous expliquer que cette grâce modifie à tel point le paysage intérieur de l'âme que celle-ci même a du mal à se reconnaître elle-même. Thérèse décrit cette faveur de l'union sous sa modalité extraordinaire de grâce mystique, mais il faut préciser avec elle que cette modalité n'est pas nécessaire à sa réception, la modalité extraordinaire, de faveur extraordinaire. En effet, dans sa miséricorde, la grâce de Dieu peut élever l'âme à ce haut degré de vie spirituelle en réponse à un don de soi complet, une ascèse, un effort énergique, une fidélité d'amour exigeante, vécue dans le cadre d'un chemin de sainteté tout ordinaire, tout banal, pourrait-on dire, extérieurement en tout cas. Et voici que, en raison de cette union, l'âme est entraînée, comme par un poids d'amour, à vouloir librement ce que Dieu veut. Voilà. Toute la question de la liberté est là. Plus l'âme se donne à Dieu, plus elle est libre. Et plus elle veut librement ce que Dieu veut. Le poids d'amour. Ici, en arrière-fond, on pense à Saint Augustin. Saint Augustin qui dit « Mon poids, c'est mon amour. Qu'il m'entraîne ou qu'il m'entraîne. » On peut dire que l'âme a été vaincue par la charité divine. C'est ce que précise Thérèse. Et alors, elle demande à Dieu de faire d'elle ce qu'il veut. Elle ne sait et ne veut rien d'autre. Désormais, tous les désirs de la volonté sont orientés vers lui. Et c'est ainsi que, comme le dit Thérèse, elle voudrait s'anéantir dans la louange du Seigneur. Elle voudrait subir de grandes épreuves pour lui. Elle voudrait se livrer à la solitude et à la pénitence. Et surtout, surtout, que tous au monde connaissent Dieu. Donc on voit l'impact apostolique immense de la progression spirituelle, et notamment à ce stade de l'union de volonté. Tous au monde connaissent Dieu. Ah, si tous pouvaient connaître Dieu. Une manière de dire que la volonté salvifique du Seigneur est en quelque sorte passée en elle et résonne dans son cœur avec une puissance inconnue jusqu'alors. Le Christ est vraiment devenu la demeure de l'âme. Elle vit avec lui, cette âme. Elle est, pour ainsi dire, immergée en lui. Nous le voyons, l'union de volonté a des conséquences considérables sur le plan de l'esprit apostolique, de la mission, parce que renaître de cette manière dans le Christ, c'est être en même temps renouvelé intérieurement dans la manière de percevoir et de servir l'Église, qui est le corps du Christ. Hein, vous savez ce que disait Sainte Jeanne d'Arc à ses juges, c'est tout un de notre Seigneur et de l'Église. Et donc le renouvellement dans le Christ, c'est un renouveau aussi ecclésial, enfin de la perception de l'Église et du service de l'Église. Et pour sa part, le père Mariogène souligne dans ce sens que la découverte de l'Église, c'est-à-dire le Christ total, est l'événement important qui accompagne l'union de volonté. Vous voyez, « Je veux voir Dieu », page 662. On le voit, vie d'oraison et zèle apostolique se stimulent l'un l'autre. C'est le deuxième point des cinquièmes demeures. Vie d'oraison et zèle apostolique se stimulent l'un l'autre. Ce feu d'amour, ce nouveau feu d'amour, ravive puissamment dans l'âme le désir de louer et servir le Seigneur, on l'a dit. Tout en la purifiant par une sorte de tension douloureuse qu'on pourrait appeler tension eschatologique. Le déjà et le pas encore. Parce que d'un côté, l'âme est attirée de façon quasi irrésistible vers Dieu. Elle a l'impression d'avoir perdu ses repères ici-bas. Le petit papillon ne sait pas où se poser, quoi. Thérèse écrit littéralement, « Le papillon ne sait où se poser pour s'y fixer. Il est mécontent de tout ce qu'il voit sur la terre. Pourquoi ? Parce que rien ne peut lui donner le vrai repos. » Donc, elle est attirée divinement vers le Seigneur. Et bien, d'un autre côté, et dans l'oraison même, lui revient la peine, et je cite Thérèse, de voir Dieu offensé en ce monde, et si peu honoré, et le grand nombre d'âmes qui s'y perdent. Et donc l'âme est en même temps tourmentée, c'est le mot qui convient, par le salut de tous. Et donc l'âme vit cette tension, qui culminera au sixième demeure et qui s'apaisera dans la paix, justement, au septième demeure. Vous savez, c'est ce qu'on voit chez cette tension eschatologique, on la voit chez Paul. Il dit, il serait meilleur pour moi de partir et d'être avec le Seigneur, mais finalement, rester est meilleur pour vous. Donc, finalement, je choisis de rester. C'est ça. Et ça, c'est l'œuvre de la charité, qui purifie en même temps. Le double aspect de la grâce baptismale, si vous voulez. Le double mouvement de la grâce baptismale. Donc on voit que l'amour de Dieu puisé dans cette intime union alimente à la fois la vie d'oraison et le zèle apostolique, qui existait déjà avant. Mais ici, il y a comme une explosion. Et il vaut la peine vraiment de noter à la suite de Thérèse que ce zèle est donné, ce zèle nouveau est donné, il est vraiment infusé par le Seigneur. C'est ce qu'elle constate, je la cite. De toute façon, c'est toujours dans ces chapitres de cinquième demeure. Alors voici ce qu'elle écrit. « Ô grandeur de Dieu, il y a bien peu d'années, peut-être même bien peu de jours, cette âme ne pensait qu'à elle. Qui donc l'a jetée dans de si pénibles soucis ?» Dans une certaine mesure, l'âme participe maintenant à l'ardeur de la rédemption qui brûlait le cœur du Christ. Et Thérèse dit bien, les pénibles soucis qui en résultent ne sont pas le simple résultat de longues années de méditation sur la nécessité du salut. Que non, écrit Thérèse, la peine qu'on éprouve à ce degré d'oraison n'a rien de commun avec celui-ci. Nous pourrions bien, certes, la ressentir, Dieu aidant, à force de méditer, mais elle n'atteint pas le fond de nos entrailles comme il en est ici, où elle semble déchiqueter l'âme et la broyer, sans qu'elle le cherche, et même parfois sans qu'elle le veuille. Donc on peut dire qu'il s'agit d'un zèle proprement mystique, conséquence de l'union. Et donc cette constatation, je vais terminer, permet de mieux saisir comment le développement du zèle dépend du progrès dans la vie d'oraison. Je vais terminer donc en sautant quelque chose, en faisant une allusion à Thérèse de l'Enfant Jésus, qui dit que, enfin d'abord à Thérèse de Jésus et puis de l'Enfant Jésus après, dans l'autobiographie, Thérèse de Jésus explique que ces âmes commencent à aider les autres sans guère s'en rendre compte, sans rien faire d'elles-mêmes. On pourrait appeler cela un apostolat par osmose, en quelque sorte. De si fortes vertus demeurent, l'amour est si enflammé qu'on ne peut les cacher, car toujours, même sans le vouloir, ces âmes font progresser d'autres âmes. Et Thérèse de l'Enfant Jésus, qui écrit dans ses manuscrits autobiographiques, « Jésus m'a donné un moyen simple d'accomplir ma mission. Il m'a fait comprendre cette parole des cantiques, du cantique des cantiques, « Attirez-moi, nous courrons à l'odeur de vos parfums. » Ô Jésus, il n'est donc même pas nécessaire de dire, en m'attirant, attirez les âmes que j'aime. Cette simple parole, attirez-moi, suffit. Seigneur, je le comprends. Lorsqu'une âme s'est laissée captiver par l'odeur enivrante de vos parfums, elle ne saurait courir seule. Toutes les âmes qu'elle aime sont entraînées à sa suite. Cela se fait sans contrainte, sans effort. C'est une conséquence naturelle de son attraction vers vous. Donc on pourrait dire que le premier témoignage de tout baptisé est et sera toujours celui de l'habitation de l'Esprit-Saint en lui, mais que, évidemment, cette habitation est appelée à se manifester aussi par ce que Thérèse appelle des œuvres. Mais c'est un autre chapitre qui s'ouvrirait. Voilà, je vous remercie.